Radio Campus Lille, 16h.
Souviens-toi, était-ce mai, novembre ici ou là, était-ce un lundi, je ne me souviens que d'un mur immense, mais nous étions ensemble, ensemble, nous l'avons franchi.
Bonjour et bienvenue à tous, vous êtes bien sur 106,6 FM dans l'émission Ensemble tous ensemble pour une heure avec Vincent et moi-même Coralie. Lors de notre dernière émission, je vous annonçais le départ de Vincent en tant que co-animateur pris par d'autres engagements. Il s'agit donc de notre dernier ensemble, nous aurons l'occasion d'y revenir à la fin de cet enregistrement, si tu le veux bien, Vincent.
Oui, bien sûr.
Avant ça, et pour ce mois-ci, nous recevons Jean-François Trochon, fondateur de Béguinage et compagnie, qui n'est autre, petit aparté, que mon collègue et patron, puisque je suis chargée de mission dans la société. Bonjour Jean-François.
Bonjour Coralie. Bonjour Vincent.
Bonjour Jean-François. Alors, on vous a invité, Jean-François, pour parler de l'accompagnement que vous proposez aux collectivités locales, aux bailleurs aussi, ainsi qu'aux porteurs de projets d'habitat inclusif, puisque c'est le sujet qui va nous rassembler aujourd'hui. Alors, l'habitat inclusif, on l'entend à toutes les sauces, on l'entend beaucoup hein, en ce moment. On entend aussi parler d'habitat groupé, d'habitat partagé. Il y a de quoi perdre son latin, surtout quand on connaît le nombre des alternatives d'habitat qui existent entre le domicile et l'EHPAD. Habitat intergénérationnel, habitat participatif, colocation senior, accueil familial, village senior, les béguinages et plus institutionnellement parlant, résidence-service, résidence-autonomie, les MARPA et les EHPAD. On va donc faire le point ensemble sur cette définition de l'habitat inclusif afin qu'on puisse comprendre que cela sous-entend. Coralie va nous éclairer en termes d'organisation, de public, d'architecture, ça va nous amener à parler de votre service, à vous, Jean-François, et du service que vous rendez. Alors, Coralie, quand on parle d'habitat inclusif, qu'est-ce qu'on dit en fait ?
Finalement, on va poser la question à Jean-François, puisque c'est notre invité d'aujourd'hui. Donc finalement, l'habitat inclusif, Jean-François, pour introduire le sujet, finalement, quand on emploie ce terme-là, de quoi parle-t-on ?
On parle d'un habitat groupé ou une colocation pour personnes âgées ou personnes avec handicap. Et c'est surtout un projet qui se veut... Surtout pas être exclu de la cité, mais bien dans la cité. Donc, dans cette notion d'inclusif, c'est d'être dans la relation finalement avec ce qui se vit dans le quartier, là où habiteront les futurs occupants.
Alors, ce terme, il est devenu à la mode et il est assez présent dans la politique du vieillissement et du handicap, notamment depuis la loi Élan du 23 novembre 2018 qui a fait entrer l'habitat inclusif dans le droit commun en le définissant comme un mode d'habitation regroupé assorti d'un projet de vie sociale et partagé et donc, comme vous venez de le dire, Jean-François, destiné aux personnes âgées et ou en situation de handicap. Il y a aussi le rapport des messieurs Pifto et Wolfram intitulé « Demain, je pourrais choisir d'habiter chez vous ». Ce rapport, cette synthèse, a quant à elle pris le parti de parler d'habitat accompagné, partagé et inséré dans la vie de la cité. On parle d'API. Qu'est-ce que vous pensez de ces avancées et en quoi elles font finalement évoluer, vous, votre pratique chez Béguinage et compagnie ?
Alors, ces avancées, elles sont énormes. Juste peut-être pour resituer donc mon parcours. Donc, moi, j'ai été directeur d'établissement de travail pour personnes atteintes de handicap, donc ce qu'on appelle un ESAT, pendant 8 ans et ensuite directeur d'EHPAD. Quand j'ai créé Béguinage et compagnie il y a bientôt 7 ans et que j'allais voir finalement les bailleurs sociaux en leur parlant finalement de l'approche qui partait des habitants et non pas du logement. À ce moment-là, en fait, mes interlocuteurs, je dirais, n'y croyaient pas, ne comprenaient pas finalement le sens de cette participation des habitants au projet de construction, projet aussi dans des habitats existants. Et donc, finalement, tous ces rapports, et notamment le rapport Pifto, a vraiment fait évoluer les choses. Et donc, aujourd'hui, nos interlocuteurs, que sont donc les bailleurs sociaux principalement, se rendent compte que finalement, c'est important de faire participer les habitants dans les évolutions et dans les projets finalement du vivre ensemble. Et c'est toute cette notion finalement de participation citoyenne qui se développe de plus en plus et qui vient même s'élargir au-delà de l'habitat sur tout ce qui est notion d'urbanisme.
Alors peut-être une question, on dit habitat partagé et habitat participatif. Vous pouvez expliquer les deux notions du coup ? Parce qu'on peut confondre l'une et l'autre.
Oui, alors la notion d'habitat partagé, on est vraiment sur cette notion qui est en fait met en avant finalement l'habitant. Dans cette formulation d'habitat inclusif, on est vraiment personne âgée et personne handicapée. Il peut y avoir une mixité finalement de ces deux publics dans ces habitats. On est souvent et même quasi exclusivement sur des locataires et non pas sur des propriétaires. Et on a cette notion qui est d'un accompagnement aussi à la vie sociale. Et donc du coup, on en parlera peut-être tout à l'heure hein, dans le cadre de l'habitat inclusif, cet élément d'aide à la vie sociale. Mais on a bien des personnes qui sont en fragilité et qui ont finalement ce besoin d'un accompagnement, d'une coordination dans leur quotidien. Alors que sur l'habitat participatif, on est finalement sur tout type de public et qui ont une beaucoup plus grande autonomie.
Et par contre, il y a une dimension participative dans la naissance de cet habitat.
Oui, tout à fait.
Voilà. Donc c'est cet aspect aussi participatif où les usagers, les futurs usagers sont impliqués ?
Systématiquement. C'est l'essentiel, c'est l'essence même du projet. Quand on dit habitat inclusif, on est bien dans cette démarche où systématiquement les futurs habitants sont recherchés en amont de l'installation pour aller travailler finalement avec eux sur leur projet de vie, sur ce qu'ils veulent vivre ensemble, comment organiser finalement l'entraide et comment ils vont se coordonner pour faciliter leur quotidien.
Ils sont co-auteurs.
Ils sont co-auteurs, tout à fait.
D'accord. Tout à l'heure, Jean-François, vous disiez, voilà, je suis ancien directeur. Qu'est-ce qui vous a amené à changer de profession, finalement? Qu'est-ce qui vous a fait vous dire, il faut créer quelque chose en plus, il faut créer Béguinage et compagnie pour associer les habitants, tout de suite aller les chercher, comme vous venez de dire? Qu'est-ce qui fait, finalement? Est-ce qu'il y a eu une parole d'un habitant
Qu'est-ce
qui a déclenché Béguinage et compagnie?
Alors, j'étais directeur d'EHPAD d'un établissement que j'avais ouvert, donc une maison de retraite médicalisée. Et donc, à côté de l'établissement, donc c'était dans le Pas-de-Calais, à côté de Courcelles-lès-Lens, à côté de Noyelles-Godault. Et il y a donc un projet immobilier, 12 logements, mitoyenneté, qui s'est construit par un bailleur social, qu'il appelait Béguinage, mais qui n'en avait que la forme architecturale, c'est-à-dire de maisons de plein pied, mitoyennes, autour d'une cour carrée. Et très vite, il y a une habitante qui est venue me voir à l'EHPAD en disant « Mais en fait, les logements sont plus adaptés et facilitent finalement mes déplacements au sein du logement. Mais aujourd'hui, je me sens plus dépendante dans ce nouveau logement que là où j'étais avant. »
Et elle était où avant ?
Elle était en fait dans un appartement du même bailleur social qui certes n'était pas forcément adapté, mais par contre qui était proche du centre-ville. Donc du coup, en termes de déplacement, elle pouvait encore relativement difficilement, mais elle pouvait encore faire des courses. Elle avait tout un réseau social, tout un tissu de relationnel qui facilitait finalement son quotidien, qui faisait qu'elle n'était pas isolée, qu'elle ne se sentait pas seule, et que lorsqu'elle avait besoin d'aide parce que les déplacements étaient difficiles, à ce moment-là, elle pouvait être aidée. Alors que là, elle s'est retrouvée... Donc l'EHPAD était situé plutôt en dehors du bourg, donc elle s'est située éloignée finalement de tous ses services, tous ses commerces, de tous ses amis, et n'ayant pas la capacité de se déplacer pour aller les retrouver. Donc du coup, un isolement fort. Elle me disait par ailleurs que rien n'était organisé pour connaître finalement ses voisins. Et donc du coup, ce nouveau lieu ne répondait pas à ses besoins. Et c'est comme ça que finalement, Béguinage et compagnie est né dans ma tête. Je me suis dit, mais en fait, on laisse aujourd'hui se construire des lieux qui certes répondent à des normes d'accessibilité, mais en aucun cas ne répondent aux besoins. Et la meilleure personne pour être... pour pouvoir agir, c'est vraiment l'habitant, c'est le futur habitant qui va pouvoir dire « ça me convient » ou au contraire « voilà quels sont les manques que je rencontre et en quoi il va falloir faire évoluer le projet ».
Alors, est-ce qu'on pourrait dire, Jean-François, que finalement, on peut loger quelqu'un, mais permettre à quelqu'un d'habiter, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire qu'on va loger quelqu'un dans des dimensions métriques, dans des logiques techniques, mais permettre à quelqu'un d'habiter un lieu, c'est lui permettre d'investir, comme cette dame qui vivait dans son appartement. Elle habitait l'appartement, mais elle habitait aussi un immeuble et son quartier. Alors que quand on propose un logement uniquement dans des repères métriques, certainement très bien pensé, très bien réfléchi, mais et qu'on n'implique pas les gens, ils habitent difficilement.
Tout à fait. Et c'est vrai que moi, j'aime bien parler d'accompagner, en fait, en parlant de l'habitant et du verbe « habiter le lieu », plutôt que de l'habitat, plutôt que des murs, des fenêtres et des toits. On est vraiment dans cette notion de la relation de l'habitant avec son environnement, son lieu, son chez-soi, mais aussi son environnement proche dans son quartier. Et c'est tout ce lien qu'il faut aller rechercher, et c'est l'habitant qui en parle le mieux pour pouvoir s'assurer finalement de la pertinence d'un projet dans son implantation, dans son organisation, et dans la mesure où ce projet architectural va faciliter les relations entre les habitants.
On a compris ça, Coralie, quand on a échangé avec des directeurs d'EHPAD qui exprimaient la difficulté pour une personne de quitter son habitat historique. Et il ne s'agit pas simplement que des tableaux accrochés au mur. Hein, il s'agissait aussi de la façon dont les gens avaient investi leur logement, leur habitat, et pour entrer dans un établissement qui a pu être bien pensé, mais qui peut avoir ou un profil un peu plus hospitalier, ou en tout cas beaucoup plus impersonnel, dans lequel ils ont des difficultés.
Effectivement, on a déjà reçu, et enfin, faut pas oublier non plus que aujourd'hui encore, je me souviens d'une recherche de l'IFOP, d'un questionnaire qui a été distribué à bon nombre de Français. 85% des Français souhaitent rester vivre à domicile, et ça, c'est quand même pas rien sur les derniers résultats. Alors, à domicile, on entend surtout ne pas aller dans un établissement médico-social ou hospitalier, selon comment on voit les choses. Mais effectivement, c'est une réalité qui fait que on souhaite pas forcément quitter son domicile parce que effectivement, il y a quelque chose de personnel. On y a vécu avec potentiellement ses enfants, ses petits-enfants. Pas mal de choses, mais
si je François. Si je peux me permettre, en fait, à domicile, en fait, on parle plutôt de rester chez soi.
Oui. C'est
ça. Et le chez soi, en fait, n'est pas uniquement son domicile, c'est tout ce qui concerne son environnement de vie. Et donc, le chez soi, si jamais le chez soi s'élargit au quartier, si jamais on a une proposition nouvelle dans le quartier ou dans le village, à dire voilà, on peut vous proposer du logement qui va vous faciliter le quotidien, mais qui vous permet de garder tous vos repères du quotidien. En termes de commerce, en termes de service, en termes de relationnel, en proximité de vos amis, le pas est plus facile à franchir. Alors qu'effectivement, aujourd'hui, malheureusement, on est plutôt sur des propositions qui sont plutôt de grosses institutions et qui sont du coup construites souvent d'ailleurs en périphérie, parce que les terrains, le foncier est moins cher. Et donc du coup, on ne permet plus à la personne de rester dans son repère, dans son chez-soi. Mais je pense que c'est important de se dire, voilà, le chez-soi, c'est pas uniquement sa maison, sa cuisine et son petit bout de jardin.
Ah ouais, c'est tout l'environnement qu'il y a autour, effectivement.
Ce qui implique aussi, j'y pense maintenant, ce qui implique aussi la responsabilité des communes, des collectivités territoriales, qui doivent permettre de dégager des espaces, des surfaces en ville. Parce que vous évoquiez, Jean-François, les établissements périphériques, on a connu ça, hein, des établissements pour personnes en situation de handicap qui étaient très éloignés de la vie et parce que la campagne, c'est pas assez moins cher que le centre-ville. Donc les communes ou les collectivités territoriales sont impliquées, elles doivent permettre que les aînés, hein, parce que, et non pas leurs aînés, parce qu'ils appartiennent à personne, les aînés, mais que les aînés de leur commune, les citoyens plus âgés de leur commune restent des citoyens en lien avec leur environnement historique, mais en lien avec les services aussi. Et donc, c'est bien un partenariat avec les bailleurs, avec votre société par exemple et d'autres, de permettre que ces établissements, que ces lieux d'accueil, ces lieux de vie, ces lieux d'accompagnement soient en lien avec le reste de la cité.
Tout à fait. Et ça, en fait, en termes d'accompagnement de collectivité, hein, que ce soit commune ou communauté de communes, pour nous, quand on réalise une étude d'opportunité, c'est essentiel déjà de faire participer les habitants pour faire comprendre aux élus que finalement, la personne âgée telle que l'élu l'imagine n'est pas celle qui est en face de lui. Et donc, souvent, dans ces réunions collectives qui sont, en fait, dans ces études d'opportunité essentielles pour moi, c'est recueillir finalement le regard, les attentes des habitants plus âgés sur comment je suis aujourd'hui, comment j'ai envie de vieillir et en conséquence, quels sont les besoins auxquels il faut, vous, en tant que collectivité, vous apportiez une réponse. Et c'est vraiment... l'exemple que je vous citais tout à l'heure, en fait, ça a été effectivement très, très fréquent. Et aujourd'hui, je pense que les élus commencent aussi à évoluer dans leur façon de percevoir finalement que vieillir, c'est pas pour autant qu'il faut s'exclure, et bien au contraire. Et donc du coup, quand je leur dis mais votre projet futur, il doit s'inscrire dans une dynamique de cœur de ville, Et on doit être attentif à ce que finalement l'ensemble des services des commerces soit à proximité de ce futur lieu de vie. Et écoutez donc les habitants, parce que regardez, écoutez ce qu'ils ont à vous dire. Et donc du coup, vous allez comprendre d'autant mieux finalement ce que je vous dis. Ils sont les meilleurs porte-parole finalement de cette démarche. Et c'est là toute la différence. Enfin, je veux dire, on ne vient pas faire des études pour des études en cherchant des chiffres. On vient surtout recueillir la parole habitante. Et donc, du coup, ça vient transformer vraiment le projet en disant « Mais en fait, on ne veut pas construire du logement. » Non, on veut construire un projet de vie dans lequel les habitants se sentiront bien.
Ça va te dire quelque chose, Coralie. C'est entendre l'habitus des personnes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui les constitue, quels sont leurs désirs, quelle est leur histoire, quelle est leur façon de vivre, quel est leur quotidien. Et c'est bien le sens de l'habitat. Hein. C'est quelque chose qui accueille, qui est un repère et repère, quoi, dans les deux orthographes possibles, pour les personnes, où ils se sentent bien, où ils se sentent en sécurité, mais aussi où ils se sentent en capacité d'être eux-mêmes au sein d'un lieu qui est un lieu de leur quotidien, de leur vie. Hein, ouais. C'est important.
Hein. Alors, je te rejoins entièrement, et je rebondis sur ce que tu disais juste avant, c'est que la force des élus, c'est effectivement, alors je rejoins aussi Jean-François, c'est de faire un peu bouger les lignes et les représentations sur le vieillissement, mais au-delà de ça, les communes ont aussi un intérêt d'être sur ce type de projet, parce qu'il y a aussi le parcours résidentiel qui entre en compte, c'est-à-dire que la personne âgée va quitter son domicile, qui est potentiellement devenu trop grand, et donc on pourrait à la place accueillir une famille, et donc finalement faire venir de nouveaux habitants, faire marcher l'école du village s'il y en a une, etc. Donc ça a tout son intérêt, effectivement. Les termes qui sont employés, les définitions qui leur sont associées, elles ont forcément une influence sur les pratiques, aussi bien pour la conception des projets que pour leur fonctionnement au quotidien. Jean-François, est-ce que vous pouvez nous expliquer, au-delà finalement des définitions, ce que Béguinage et compagnie proposent d'apporter pour faciliter le bien vivre et bien vieillir sur notre territoire, comme on a commencé à en parler, Vincent?
Et le terme Béguinage, ça vient de où?
Au passage.
Le terme béguinage vient des Flandres, donc on est vraiment complètement inscrit dedans.
On est en plein dedans, parce que vous êtes un Flandrien vous-même, non?
Pas tout à fait. D'adoption. En fait, donc le béguinage, c'était il y a 800 ans, à peu près. C'était ces lieux de vie, en fait, qui ont été créés par une femme pour protéger les femmes. En fait, les hommes partaient à la guerre, ne revenaient souvent pas, et donc du coup, ces femmes qui travaillaient dans les hospices, qui travaillaient dans les filatures, se retrouvaient seules. Et on peut imaginer, en 1200, 1300, c'était quand même dangereux pour elles. Et donc, du coup, ça a été cette idée de se dire, proposons à ces femmes de vivre dans des lieux sécurisants, et notamment donc la nuit. Donc, en fait, c'est un espace qui est ouvert en journée. C'est une place du village supplémentaire. Par contre, on ferme les grandes portes de cette cour carrée la nuit pour qu'elles soient protégées. Et donc, c'est toute cette solidarité aussi qui s'engageait, parce que quand il y avait des enfants, ben voilà, il y avait une éducation qui était apportée aux enfants pendant que les mamans allaient travailler, par exemple, à l'hospice. Et donc, toute cette dimension de béguinage s'est vraiment développée pas mal dans le nord de l'Europe. Et dans les années 1970, il y a donc un bailleur social qui a repris finalement ce modèle en voulant le redévelopper, en s'appuyant quand même essentiellement sur la démarche plutôt architecturale, c'est-à-dire du logement en mitoyenneté, de plein pied, autour d'une cour carrée, qui en a un petit peu oublié le volet social, le volet animation, le volet entraide. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, dans Béguinage et compagnie, la volonté forte que j'ai, c'est que l'on retrouve finalement cette notion finalement de solidarité, de lien entre les habitants. Et donc, en venant construire des liens avant même que les habitants ne posent leur carton dans leur logement, c'est tout ça qui est gagné pour ensuite un futur avec une vraie relation avec son voisin, avec une vraie convivialité et tout un esprit.
Et c'est tout à fait sécurisant de connaître ses voisins, d'avoir des liens déjà avant d'entrer dans son futur habitat. C'est sécurisant de savoir si j'ai un problème, je peux compter sur les autres, sur cette solidarité, cette proximité aussi.
Alors, c'est non seulement sécurisant, mais je dirais avant tout déjà, ça permet à des personnes qui pour certaines se sont retrouvées très isolées, n'osant plus demander aux autres, donc une perte de confiance, c'est déjà important de se dire, mais en fait, ce projet futur... Ce n'est pas une fin, c'est un nouveau début. Mmh. Et donc, du coup, quand on est dans cette attitude-là, la personne une fois qu'elle aura, par exemple, son ampoule, son plafonnier qui va claquer, elle osera enfin demander à sa voisine, mais peut-être au fils de sa voisine, de dire, ben voilà, est-ce que vous pouvez me dépanner, simplement. Et en fait, c'est toutes ces petites choses qui rendent le quotidien plus agréable, plus facile. Et en échange, on a aussi ces relations qui se font, ben voilà, plutôt que de faire de la soupe pour moi toute seule, je vais en faire aussi, j'irai porter ça à mon voisin qui ne voit pas très clair, mais par contre, qu'est-ce qu'il est sympathique, et donc du coup, je vais passer un bon moment. La soupe, finalement, c'est une bonne excuse.
On est à l'essence même de la solidarité, de la dépendance et de la pourvoyance, comme dit Albert Memmi, le philosophe et sociologue, c'est... Et que Bernard Hennuyer, que nous avons reçu ici, avait repris, c'est pour dépendance et pourvoyance, c'est le ciment du vivre ensemble. C'est-à-dire qu'on est tous dépendants des autres. C'est pour ça que les terminologies sur l'autonomie, la dépendance, c'est galvaudé, c'est simplifié à outrance, mais on est tous dépendants les uns des autres et on est tous pourvoyants des autres. Et on a donc ce lien de dépendance assumée, donc on appellera de solidarité pour être politiquement correct et pour ne pas être interprété, mais ce lien de dépendance et de pourvoyance qui s'installe dans les béninguinages que vous évoquez, enfin, qui doit s'installer, en tout cas.
Qui s'installe,
voilà.
Je confirme.
Voilà.
Je ne sais pas si tu as vu, mais on a noté ce que tu viens de nous dire quand même. Tu es le sage de cette émission, Vincent. Merci pour cette intervention.
C'est pas un vieux sage qu'on apprend.
Et alors du coup, si on revient... Alors, on parle de participation des habitants. C'est quoi finalement le plus de béguinage et compagnie ? Qu'est-ce que vous allez chercher auprès des habitants pour assurer ce bien vieillir, ce bien vivre ensemble, proche quand l'habitat s'ouvre, quand les personnes arrivent dans leur nouveau logement, pardon.
On vient tisser du lien. On vient tisser du lien de personnes qui souvent ne se connaissent pas. Ou si elles se connaissent, c'est plus parfois de vue uniquement et pas forcément dans une relation presque intime. Parce qu'en fait, on anime donc des ateliers, ce que l'on appelle assistance maîtrise d'usage, on anime des ateliers au préalable de l'installation, ce qui permet à ces habitants, je disais, de reprendre confiance. Et au-delà de prendre confiance en eux, c'est aussi de se rendre compte que finalement, ils sont peut-être différents, mais aussi complémentaires, et que ce projet, il se nourrit en fait de l'expérience de chacun. Et c'est comme ça que finalement ces béguinages se font vivants, parce que quand les personnes installent leurs affaires, en fait, elles n'ont qu'une seule envie, c'est ce qu'elles me disent, hein, c'est de mettre en œuvre finalement les projets qu'elles ont imaginés ensemble, qu'elles ont coécrits, et qui donc du coup va venir apporter toute la richesse finalement du futur projet.
Merci, on y reviendra juste après. On va faire une première pause musicale avec Our House par le groupe britannique Madness. Cette chanson parle de la vie qui règne dans une maison et donc de l'importance qu'elle acquiert pour les gens. Telle que le traduit une des paroles de cette chanson, « Notre maison, c'était notre château et notre refuge. La maison vécue comme un lieu de ressources. »
His Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our street.
Someone tells you that you've got to move
in the middle of our. Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school, sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways.
they simply wasted their way, then we'd say nothing would come between us. Two dreamers. Father wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around.
Ce temps fort agréable présenté par Coralie. Jean-François, j'ai bien compris qu'il s'agissait de permettre aux personnes de développer cet esprit de solidarité, d'échange, de négociation et d'offres de services, mais dans l'esprit de cette convivialité qui est attendue. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire quelquefois d'avoir quelqu'un ou un dispositif qui permet de faciliter ça? Parce que quelquefois, ou au fil du temps, puisque les bailleurs, les gens partent et d'autres arrivent, il faut qu'il y ait bien quelqu'un qui soit dans la dynamique de cet échange.
Alors, je dirais qu'il y a deux modèles. Il y a le modèle qui a démarré en fait il y a 7 ans, avec Bégayénage et compagnie. On ne parlait pas de l'habitat inclusif à l'époque. Et donc, du coup, on est plutôt sur un modèle d'autorégulation.
D'accord.
Et avec les habitants, dans le cadre des ateliers dans l'assistance maîtrise d'usage, avant l'installation des habitants, on a travaillé un peu sur une charte du vivre ensemble. Et également, dans le cadre de cette charte, on a imaginé comment pouvoir accueillir un nouvel habitant. Parce qu'on savait que de toute façon, dans la durée, et l'objectif, c'était bien cette pérennité du projet, on savait qu'il y aurait de toute façon des renouvellements. Et donc, il était essentiel finalement d'imaginer avec les habitants comment accueillir un nouveau. Et donc, c'est cette forme d'autorégulation qui a été imaginée avec des rencontres du coup régulières sur lesquelles les habitants se sont dit, ben voilà, tous les mardis matin, on se voit, on fait le point de la semaine, on fait le point des difficultés, mais aussi des projets, de ce qu'on va faire la semaine d'après, autour d'un bon café, une fois par mois, on peut peut-être même prolonger jusqu'au repas. Et donc, en fait, c'est maintenir le lien, maintenir une relation, alors de façon un petit peu peut-être institutionnelle, mais ça fonctionne très très bien. Et ce qui a été évoqué aussi, et c'était un désir des habitants, c'est se dire, le jour où, entre nous, on ne trouve pas la solution, où on est en difficulté par rapport à une problématique sur laquelle on a besoin d'un regard extérieur, on sait qu'on peut contacter le CCAS parce que la personne se rendra disponible. Et donc, du coup, peut-être devrons-nous à un moment décider qu'une fois par trimestre, par exemple, on invite un représentant du CCAS pour le fonctionnement. Donc, cette forme d'autorégulation, en l'occurrence, c'est un projet donc, qui fonctionne déjà maintenant depuis plusieurs années, fonctionne très bien. Mmh. Et à ce moment-là, on ne parlait pas de l'habitat inclusif. Mmh. L'habitat inclusif tel qu'il est défini aujourd'hui, donc on est passé par une étape d'expérimentation au niveau national et aujourd'hui donc qui est en train de plein développement, il y a donc l'aide à la vie partagée, qui est un financement en fait qui est donné à la personne habitant un habitat inclusif et qui permet, en mutualisant ses aides...
Qui paye ?
Département. Et qui permet, en mutualisant finalement cette aide, de pouvoir... financer le poste d'une personne qui viendra coordonner finalement ce lieu de vie et pour accompagner des projets dans le secteur des personnes âgées mais aussi personnes atteintes de handicap. On a un tout nouveau projet là qu'on est en train d'accompagner sur la métropole lilloise. C'est vrai que selon les niveaux de dépendance, selon le profil en fait des habitants, ce rôle de coordination est plus ou moins important, plus ou moins nécessaire. Mais en tout cas, c'est bien l'objet de cette aide à la vie partagée, de se dire, voilà, on a des habitants qui vivent ensemble, qui n'étaient pas habitués à vivre ensemble, donc il va y avoir besoin de cette coordination. Quand je regarde l'expérience acquise avant que cet aide inclusif n'existe, en fait, hein, et dont les aides, je me dis que si jamais les choses sont bien engagées, sont bien préparées, la coordination peut se faire assez bien entre habitants, en tout cas dans le secteur de la personne âgée. Et typiquement en fait pendant la période Covid. Donc j'ai recontacté donc ces habitants qui fonctionnaient dans ce modèle d'autorégulation. Et en fait, je leur ai dit, mais vous savez, il y a possibilité aussi maintenant d'aller chercher peut-être du financement sur l'habitat inclusif. Ils m'ont dit, attendez, pas du tout, hein. On n'en veut pas. Nous, entre nous, voilà, on est acteurs de nos vies, on est acteurs de notre projet, tant à titre personnel, individuel, que maintenant dans ce collectif qui s'est créé. Et finalement, ça fonctionne très bien comme ça, et on n'en a pas besoin. Et même si jamais le Covid il est présent, je dirais, on a une belle relation entre nous. Et maintenant, on s'interpelle par, voisin, par balcon interposé, ou on se retrouve en fait au niveau des boîtes aux lettres, ou dans le jardin partagé sur lequel on a mis en place de la permaculture. On est à 5 mètres les uns des autres avec notre masque, mais on est chez nous. Et donc, du coup, on sort et on vit la relation.
En fait, on se rend compte, en vous écoutant, je me rends compte que nous, les travailleurs sociaux ou les ex-travailleurs sociaux, on structure, on charpente, on organise, on crée des modes de relations, alors qu'on devrait créer des possibilités plutôt qu'instituer des modes de relations, parce que l'illustration que vous venez de donner, c'est que quand on crée les conditions possibles pour que le lien se fasse, pour que l'autonomie perdure, pour que l'autonomie prise dans le sens du choix personnel et non pas de la notion de la dépendance telle qu'elle est tout souvent comprise, finalement les gens, eh bien, les gens y trouvent, ils sont grands, ils sont capables, ils ont des potentiels. C'est pas des sous-êtres humains comme on, et comme on regarde malheureusement, c'est peut-être un regard très négatif que j'ai, mais comme on regarde les vieux et la vieillesse, ils sont en capacité de décider pour eux-mêmes et de décider les liens qu'ils veulent avoir et les organiser.
Alors, tout à fait. Et moi, ça me rappelle une phrase d'une personne au bilan, en fait, au moment où elle rentrait dans son logement. Donc, on a fait le bilan, en fait, de l'ensemble du parcours préalablement donc à cette installation. Et la phrase qu'elle a dit qui m'a vraiment marqué, c'est « Je me suis rendu compte que je savais faire ». En fait, en lui donnant effectivement cette capacité de s'exprimer, de prendre confiance en soi, de se dire « Mais en fait, oui, j'ai de la valeur ». Oui, je peux apporter aux autres autant que les autres m'apportent. Et donc, du coup, je reprends ma vie en main. Je reprends ma vie en main. Et derrière, cette personne que j'avais rencontrée donc avant de rentrer dans le projet, très introvertie, pas bien. Manque de confiance, un divorce tardif, les enfants éloignés. Donc voilà, une situation vraiment... une précarité et sociale et humaine. Et en fait, pendant les 8 mois d'accompagnement préalablement à l'installation, je l'ai vue se transformer, vraiment. Elle était fin heureuse, elle était impatiente de rentrer. Il y en a même une, c'était pas elle, mais c'était une autre personne dans le groupe qui disait « Mais je suis impatiente de vieillir, tellement j'ai envie de rentrer dans ce projet parce que c'est magnifique ce qu'on va vivre. » Et donc, quand elle s'est installée, il y a eu ce discours qui a été fait auprès de l'élu pour remercier en disant « Mais ce que vous avez proposé, ce que vous avez permis dans ce nouveau projet du vivre ensemble, voilà, elle était vraiment pleine d'émotions, mais c'est surtout elle qui a pris la parole. » Et je peux vraiment dire que 8 mois après, j'aurais jamais cru cela.
Alors, ça me fait penser très fort à un modèle type de comportement que l'on peut avoir quand on est en contact avec des aînés, hein, les personnes très âgées, que l'on dit dépendantes. C'est ce que je ne sais plus qui a appelé la prophétie autoréalisatrice des stéréotypes. C'est-à-dire que si on met les gens en situation, selon des stéréotypes qu'on a dans la tête, les vieux sont ceci, les vieux sont cela, on les met en situation de ne pas savoir, on crée les conditions de faire à leur place, et ils finissent par ne plus savoir, par ne pas savoir. Alors que si on crée les possibilités, les ouvertures possibles pour que les gens retrouvent la capacité, le pouvoir d'agir, eh bien, ils agissent. Et du coup, ils deviennent capables, mais avant, il faut avoir un regard sur leur capacité plutôt que sur leur incapacité. On a connu ça tous les deux, puisqu'on vient du même secteur, dans le domaine du handicap.
Tout à fait.
Alors, je suis un peu tiraillée entre ma position de co-animatrice et ma position chez Béguinage et compagnie. Ça me rappelle une personne qui est arrivée sur un de nos ateliers Il est arrivé, il a dit, moi, je veux pas beaucoup parler, vous savez, je bégaye. Et puis finalement, à la fin de l'atelier avec Jean-François, on se dit, mais finalement, il a beaucoup participé. Ça a commencé par des mimes. À chaque fois qu'il prenait la parole, il lui fallait un peu plus de temps que d'autres, peut-être. Mais il mimait. Et du coup, sa parole était accompagnée par un geste qui facilitait la compréhension. Et finalement, c'est l'une des personnes qui a le plus participé. Alors, enfin voilà, je voulais juste rajouter ça parce que ça fait complètement écho avec ce qui vient d'être dit. Et c'est là toute la force de la plupart du temps, les gens arrivent et disent, mais moi, vous savez, j'ai pas grand chose à dire. Je ne sais pas. Mais oui, véritablement, je ne sais pas. Et puis en fait, quand ils nous voient prendre des notes, redire ce qui vient d'être dit, ben ils se rendent compte de l'importance de leurs paroles, puisqu'on repart de leur dire pour avancer finalement dans l'atelier.
Ça s'appelle la maïeutique, c'est-à-dire partir du principe que les gens savent et qu'il s'agit simplement de le révéler. Les gens savent. Quand on est enseignant ou professeur ou animateur d'un groupe, on n'arrive pas en disant « je sais » et puis vous ne savez rien. Non, vous savez. Bien plus que moi. Et l'idée, c'est d'échanger pour que ça se révèle.
Ça me fait penser à une autre expérience, Jean-François. Cette personne qui arrive et qui dit « mais moi, vous savez, je vais plus être un handicap pour le groupe parce que j'ai une déficience visuelle, auditive, je ne sais plus. Est-ce que vous pouvez reprendre cet exemple qui est très parlant aussi, finalement ?»
Oui, c'est un monsieur veuf depuis 3 ans, 89 ans. Et en fait, il me disait, bon, moi, je viens dans le groupe parce que ça me permettra de me rapprocher de mon fils, qui aujourd'hui fait 30 km, 60 allers-retours, 2 fois par semaine pour m'aider dans mon quotidien, parce que je vis dans la maison où je suis quasiment né, j'ai vécu pendant 60 ans. J'ai tous mes souvenirs là-bas, mais bon, ça devient compliqué. Je ne vois plus très bien. Et donc, il me dit, en fait, ce projet, il est intéressant, mais ma plus grande appréhension, c'est que finalement, je ne pourrais pas rendre les services que les autres me rendront, du fait de ma déficience visuelle. Et sans que je ne lui dise rien du tout, au premier atelier, il a pris spontanément la parole. Et il a dit, mais en tout cas, mesdames, parce qu'il y avait que des dames à côté de lui. je suis désolé, mais voilà, ce projet, je sens qu'il va être bien, mais je ne vais pas pouvoir vous aider. Et notamment quand très vite, on est parti sur le projet d'un jardin partagé avec donc, de la permaculture. Il a dit surtout, là, à ce moment-là, je risque de vous retirer plus finalement les bons plants que les mauvaises herbes. Donc, on a très très vite été sur, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pousser. Et donc là, on s'est dit, mais finalement, les petits pois pourrait peut-être nous aider pour les écossais. Alors là, il a retrouvé un sourire, une banane, en disant « Bah oui, c'est évident, je le fais déjà pour mes voisins. » Et donc, du coup, on l'a senti comme quoi, voilà, il savait qu'il y aurait certains lieux, certains points sur lesquels il va pouvoir apporter au groupe. Et au-delà de ça, une fois qu'ils sont installés, en fait, ce monsieur, c'est surtout qu'il avait une qualité d'écoute et il avait un regard sur lui-même et une sagesse et une capacité de relativiser les choses. Et donc, dans le groupe, donc là, c'est un ensemble de 12 logements, pendant plusieurs années, ensuite, il est parti en maison de retraite, et pendant plusieurs années, il a été un élément fédérateur, il a été un élément aussi qui est venu apporter énormément de sérénité et régulant, effectivement, l'ensemble de cette dynamique de groupe. Et je pense que ce monsieur, il a vécu de belles années, il a partagé de très belles choses et... quand j'ai appris qu'il était parti en maison de retraite, j'ai échangé avec les autres habitants, mais voilà, il continue encore de rester en contact avec lui, tant il vient amené par son fils. Voilà, il y a eu un vrai projet de vie qui s'est construit et sur lequel il a été pleinement actif. Oui.
Si ça vous va, on va faire une deuxième pause musicale avec Calogero. La musique s'intitule « Ma maison ». Cette chanson, c'est le constat d'une maison devenue vide par le temps qui passe, le départ des mômes, comme nous dit l'auteur. En passant devant la maison, tout revient d'avant. Ici, il y avait des rires, des secrets et des soupirs. La maison vécue comme un lieu de partage.
Thank you. devant la maison vide, volet tombant écœurant. Soudain tout revient d'avant. Ici il y avait des rires, des secrets et des soupirs. Mais le temps, comme hier, a tout recouvert d'hier. Ils s'en vont, où sont les rires? Où sont les sons qui remplissent le soir ma maison? Lune d'avril, blanche saison, où sont passés ceux que nous étions? Maison. Croyez-moi si j'entends résonner nos soirées d'antan. Ici c'était un royaume rempli de rêves et de mômes. Désormais les gens se fichent de ce vieux jardin en friche. Les rires, le temps les emporte comme le vent les feuilles mortes. S'en vont, où sont les rires? Où sont les sons qui remplissent le soir ma maison? Lune d'avril, blanche saison, où sont passés ceux que nous étions? Elle est vide, elle est seule, ma maison.
Bien après Calogero, Jean-François, vous évoquiez les CCAS tout à l'heure dans nos échanges. Quels sont tous les partenaires qui sont impliqués dans un projet comme un projet de béguinage?
Alors, je dirais que les trois partenaires clés, c'est les élus, l'élu de la commune qui accueille. Le deuxième, ce sera le bailleur, le porteur de l'immobilier. Et le troisième, c'est les habitants eux-mêmes.
D'accord.
Et dans les habitants, bien sûr, ce sont les occupants de ce lieu, mais c'est aussi les associations locales qui jouent un rôle essentiel, en fait, au niveau du projet. Et après, on va aller voir quelles sont les autres, ce qu'on appelle les parties prenantes, tous sont ceux qui gravitent finalement autour du projet, je pense particulièrement aux services d'aide à domicile, qui sont pas forcément tout de suite impliqués dans les projets, mais qui pourraient à un moment ou à un autre être impliqués. Ensuite, donc, quand je parlais des élus, mais il y a les politiques, mais il y a aussi l'aspect opérationnel, hein, typiquement donc, il y a le CCS, bien sûr, mais aussi ce qu'on appelle le CLIC, hein, Centre Local d'Information et de Coordination. Et puis ensuite, vous avez d'autres acteurs qui peuvent agir, notamment, je pense à la CARSAT aux France, hein, qui finalement a un vrai rôle au niveau de l'accompagnement des personnes retraitées, et donc qui, pour lequel finalement ce type de projet les intéresse particulièrement parce qu'on est vraiment sur l'action de prévention, prévention de la perte d'autonomie et en recréant du lien. Donc voilà, donc ce sont d'autres acteurs. Vous avez ensuite, bon, je parlais au niveau associatif, vous avez non seulement les associations, je dirais classiques, hein, le Club des Seniors, etc., mais vous avez aussi des associations qui militent pour faire la prévention par rapport à tout ce qui est la difficulté que peuvent rencontrer les personnes âgées en termes d'accès au numérique, par exemple, mais aussi sur des adaptations au niveau du sport pour faire de la gym douce. Et donc, on est plutôt sur de la prévention de chute. On a donc, voilà, on a pas mal d'acteurs qui peuvent être mobilisés et qui sont parfois existants sur un territoire, mais pas forcément connus.
Mais tous ne sont pas impliqués dans la chaîne de décision, à partir du début du projet jusqu'à la mise en œuvre.
Au début du projet, un élu. Un élu, une communauté de communes qui se dit, ben voilà, notre population vieillit, rester au domicile, c'est compliqué, ils ont une volonté de rester chez soi, et l'EHPAD, c'est pas la solution pour tout le monde, on n'a pas forcément de MARPA à proximité, on est de résidence autonomie, donc imaginons un nouveau projet. Et donc c'est là où on vient, avec l'élu, réfléchir sur cette étude d'opportunité, se dire finalement, est-ce que c'est pertinent? Est-ce qu'aujourd'hui, l'offre est effectivement inexistante et ou insuffisante? Et donc, comment la quantifier? Combien de logements imaginer? et comment la qualifier? Est-ce que c'est du logement très social, peu social, pas social du tout? Et ensuite, en ayant rencontré les habitants dès cette phase-là, c'est aussi de se dire quelle est l'appétence des habitants de vivre un projet sur lequel on vient favoriser la rencontre et l'entraide et la solidarité. Parce que parfois, on est sur des habitants qui recherchent finalement juste une solution immobilière. Et donc du coup, dans ce cas-là, le projet béguinage tel que nous on l'entend n'est pas forcément la bonne réponse.
Dans le projet d'opportunité, on imagine il y a aussi les logiques de terrain, de moyens financiers, de soutien, enfin, et puis après peut-être d'autres partenaires qui sont dans la chaîne.
Tout à fait. Et donc c'est là où on va identifier effectivement les autres partenaires qui pourront être mobilisés dès lors qu'on viendra dire oui, il y a un besoin, oui, il y a des habitants qui ont envie, et voilà quels sont leurs profils et voilà déjà quelles sont leurs attentes. Et donc là, on va aller chercher ensuite avec l'élu, on va l'aider à trouver finalement quel sera le bon porteur de l'immobilier. Quand on a déterminé qui sera le porteur de l'immobilier, et bien souvent quand même, on est sur un bailleur social, on va aller donc travailler avec ce bailleur sur le modèle architectural, sur l'organisation, sur ce que les habitants recherchent, et ce que donc du coup, ce en quoi l'organisation architecturale doit apporter des réponses, ou en tout cas faciliter le quotidien. Et donc, on a déjà fait parfois des ateliers avec des habitants qui n'étaient pas forcément à vouloir habiter là, mais qui étaient plutôt investis, un adjoint au maire, le membre du club des aînés, etc., qui disaient « Mais tiens, finalement, ça m'intéresse aussi de réfléchir avec un architecte sur qu'est-ce qu'un habitat pour personnes âgées qui vient faciliter le quotidien. » Donc, on a toute cette dimension qui se crée. Et puis, quand... le bailleur est donc choisi, déterminé, et qu'on commence à rentrer dans une phase plus opérationnelle, dépôt de permis de construire, etc. C'est là où on va venir recommuniquer vers les habitants en disant « On vous a entendu, on a commencé à imaginer un projet, mais qui est plutôt aujourd'hui des murs. Maintenant, on a envie de construire un projet social, de ce qui va être vécu. » Et donc, du coup, qui est intéressé, on vient rencontrer les habitants. Suite à cette réunion d'information, on les rencontre individuellement pour bien mieux les connaître, mieux connaître aussi ce que chacun va pouvoir apporter au groupe, autant que le groupe va pouvoir leur apporter. Et donc et ensuite, on enclenche en assistance maîtrise d'usage, c'est partir de l'usage, partir du quotidien, et on enclenche donc des ateliers qui leur permettent de faire connaissance et de co-construire finalement ce projet de vie sociale et partagé.
Moi je le vois parce que j'ai été élu dans une vie antérieure, c'est aussi un projet politique pour une commune, ça. C'est-à-dire que je vois les prochaines municipales qui arriveront en 26, je crois, je me dis c'est parce qu'il faut anticiper. On connaît les prévisions en termes de besoins et de nombre d'aînés. Ça doit vous amener à faire du marketing. Le terme n'est pas forcément méchant, mauvais, mais dans la démarche. En tout cas, d'anticipation auprès des communes sur celles qui pourraient être, parce qu'elles n'ont pas d'EHPAD, ou les communautés de communes dans lesquelles il n'y a pas de lieu d'accueil ou d'accompagnement. Ça peut être aussi un projet politique.
Alors, c'est des projets qui mettent 4 à 6 ans
c'est
pour
ça,
sortir.
Voilà.
Donc, effectivement, ça correspond à un mandat.
Un mandat, oui.
Mais typiquement, oui, c'est un projet politique. Pour être intervenu sur une communauté de communes à Pays de Mormal, ils ont eu cette volonté de réfléchir avec les habitants sur comment mettre en place, finalement, quelle réponse apporter dans le cadre du vieillissement de cette population en milieu plutôt rural. Et donc, ils se sont rapprochés aussi de la démarche Ville Amie des Aînés. Et donc, c'est certes politique, mais quand on est dans une politique qui s'appuie sur la parole des habitants, on a vraiment tout le sens politique noble.
Bien sûr, c'était ça que je voulais dire en utilisant le terme politique.
Oui. Hein?
On entendait tout à l'heure que vous parliez, on vous entend depuis le début plutôt parler à l'échelle des Hauts-de-France, vous avez parlé de la CARSAT Hauts-de-France. Est-ce que Béguinage et compagnie est plutôt cible finalement des communes plutôt dans le nord, à l'échelle des Hauts-de-France de la région, ou alors ça commence à aussi finalement descendre un peu plus vers le bas au niveau du territoire français?
Alors, je dirais qu'au-delà de commencer à élargir, en fait, c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. Donc, du coup, le premier projet ne s'est pas construit dans les Hauts-de-France. On a été sollicité par un acteur du logement social qui, pour le coup, est dans le Pas-de-Calais, qui s'appelle la Foncière Chenelet, qui construisait à côté de Tours. Donc, le premier projet accompagné, donc, au nord d'Amboise, très exactement. Et donc ensuite, avec ce même partenaire, en fait, on a accompagné d'autres projets dans le Cher, en Seine-Maritime. Et enfin, dans les Hauts-de-France, dans le Pas-de-Calais. Donc voilà. Donc on a notre tendance aujourd'hui. Alors on est situé donc sur la métropole lilloise. Là, on a des nouveaux projets que l'on accompagne. Il y en a un deuxième qui est situé pour le coup dans le Nord, à Maroilles. Mais on a plutôt cette vocation à élargir parce que les besoins, ils sont pas uniquement concentrés dans les Hauts-de-France. Même si aujourd'hui, je pense que certains départements n'ont pas encore pris les mesures, en fait, pour accompagner finalement le vieillissement de la population. Mmh. On voit certains départements qui sont plus en avance sur cette volonté de proposer des alternatives en termes de logement aux personnes vieillissantes.
Et si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il y a une cartographie qui a été construite il y a peu de temps qui reprend l'ensemble de vos interventions à l'échelle quand même du territoire, puisqu'il y a eu quelques études d'opportunités, d'accompagnement pour, dans le sud de la France.
Tout à fait. Je vois que vous êtes bien renseigné. Non, voilà, on intervient quand même en Normandie, on a intervenu aussi en Champagne-Ardennes, donc région Grand Est. Et puis, on a été sollicité effectivement sur d'autres actions plus ponctuelles aujourd'hui, mais bon, rien n'empêche de pouvoir imaginer un développement effectivement plus national.
Au-delà de cette étude d'opportunité, de l'assistance à maîtrise d'usage, on n'a pas parlé du troisième volet que propose Béguinage et compagnie, le co-développement de projets. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, quel est l'intérêt de frapper à la porte de Béguinage et compagnie quand on n'a pas forcément de projet d'habitat en tant que tel?
Alors, co-développement de projet, ça peut paraître un peu compliqué. Co-développement, c'est surtout travailler entre professionnels et également habitants à réfléchir un petit peu différemment. C'est-à-dire qu'on n'a pas une alternative entre oui et non, mais il y a peut-être une troisième voie. Et c'est finalement chercher cette troisième voie en mettant autour d'une même table différents acteurs. Donc c'est des choses qu'on aime bien faire, notamment là, avec un bailleur social sur la métropole lilloise où on travaille avec les habitants. Donc, logement social, population qui vieillit et sur lequel on doit trouver des alternatives qui sont pas forcément toujours uniquement l'aménagement du logement. C'est aussi favoriser, aider au niveau du parcours résidentiel. Donc c'est des éléments sur lesquels on travaille de plus en plus. On a aussi, donc je parlais de la CARSA tout à l'heure, un accompagnement dans le cadre des résidences autonomie qui se posent vraiment des questions en termes de réorganisation, de rénovation, d'apporter aussi, de développer de l'offre. Avec un autre acteur aussi sur le Pas-de-Calais, on a déjà réalisé une étude sur l'ouverture de EHPAD, résidence autonomie sur le quartier, comment être un pôle ressources. Et donc du coup, ça a permis de travailler, mais toujours en partant des habitants, en partant des résidents de la résidence autonomie, en partant ensuite avec les élus, les services d'aide à domicile, et de venir croiser en fait l'ensemble de leurs regards pour arrêter de travailler chacun de son côté en silo, et bien créer des ponts. Donc le co-développement, il est là. Et c'est des choses sur lesquelles on tend à se développer parce que chacun n'a pas la science infuse et n'a pas la réponse unique. Et qu'en travaillant, en ayant des regards différents, c'est là où on vient finalement s'enrichir et donc travailler sur des projets d'autant plus pertinents.
Je crois qu'on arrive au terme de notre émission. Merci Jean-François pour votre temps. Est-ce que vous avez un site à transmettre aux auditeurs ou est-ce qu'on peut vous contacter, aller chercher des informations sur Béguinage et compagnie? Et après, je vous propose de conclure si vous avez des projets sur lesquels vous souhaitez un petit peu plus appuyer ou juste une phrase de conclusion, vos espoirs. Donc le contact et cette conclusion.
Si... Un site internet, hein, béguinage-et et-compagnie.fr. Donc sinon vous tapez Béguinage Compagnie, vous allez nous trouver, vous avez possibilité de nous contacter par ce biais, vous avez possibilité de nous envoyer un message. On a également une page Facebook et également donc sur LinkedIn, donc réseau plus professionnel sur lequel vous pouvez aussi avoir des informations. Sur le site internet, faut pas hésiter à aller voir sur les actualités, voir un petit peu tout ce qui se passe. Aujourd'hui on est en plein développement, fort sollicité. Je pense que ça augure finalement que vraiment ces nouveaux types d'habitats, on le voit en poupe. Ce en quoi moi je reste très vigilant et je suis pas le seul à le penser. Il ne faut pas que ce soit une question d'opportunité pour récupérer des financements, pour étudier, pour mettre en place, pour aller chercher de l'aide à la vie partagée. On est bien dans cette dimension où on doit remettre toujours l'habitant en premier. Et c'est ce qui me guide. Et donc voilà, donc dans ce projet Bélinage et compagnie, aujourd'hui, on restera toujours fidèle à cette notion de habitant premier. C'est ce qui est essentiel pour nous. Et sinon, mais il me reste surtout à vous remercier de votre accueil.
Merci Jean-François. Merci bien.
Avant de terminer définitivement ce rendez-vous mensuel, je tenais à remercier Vincent, grâce à qui l'émission est née fin 2018 et pour qui la dernière était aujourd'hui en avril 2022. Après 3 ans de radio, plusieurs dizaines d'enregistrements, de nombreuses rencontres de bénévoles, salariés, habitants, élus, Vincent, tu te dégages du temps pour mieux t'occuper de tes autres engagements. Merci pour ta sympathie, ton partage, pour tes idées et ton réseau. Fin 2019, tu me proposais de co-animer cette émission, ensemble, tous ensemble à tes côtés. Je ne t'en remercierai jamais assez. Ta confiance a fait de moi la co-animatrice que je suis devenue. Il m'aura fallu du temps pour prendre mes marques. Et à côté d'un homme comme toi, ben, ça met un peu la pression. Avec le temps et en partant de ta grande expérience, tu fais notamment de nos quelques années d'écart. J'ai appris et fait mon expérience. Tu m'as alors proposé de reprendre l'émission sans toi. Je suis passée par la peur, le doute, puis j'ai pris ça comme un gage de confiance et de reconnaissance de mes compétences. L'aventure va se poursuivre donc dès le mois prochain avec ma nouvelle coéquipière Mélanie Aboul, que nous présenterons sans faute dans la prochaine émission. Merci Vincent. Et donc nous nous retrouvons le mois prochain, le 3 mai, sur la thématique des voyages pour seniors organisés par l'ANCV en lien avec les centres sociaux. Et comme on a l'habitude, une petite phrase pour conclure, et celle-ci, elle est pour toi Vincent. La façon de remercier dépend de ce que l'on reçoit, alors merci beaucoup mon cher ami Vincent. Je te laisse peut-être les derniers petits mots, mais vraiment merci.
C'est très gentil. Je suis pas sûr que je mérite tous ces compliments, mais bon, c'est très gentil. Je pense qu'il y a effectivement des projets. J'ai pris la responsabilité d'une délégation du Défenseur des droits depuis maintenant un peu plus d'un an, bientôt deux. Et puis nous avons avec quelques potes du même âge, qui un âge nettement plus important que le tien, ta gentillesse qui parle de quelques années. Et on a créé une association qui s'appelle Debout les aînés. Et j'espère qu'un jour, nous aurons quelque chose d'intéressant à venir dire sur ces ondes avec toi. Je reste fidèle à ce que j'ai toujours voulu être. Je l'ai été avec peut-être plus ou moins de réussite à chaque fois, mais être un passeur et ne pas considérer que les choses m'appartiennent. C'est un ami Jean-Louis qui n'est plus là maintenant qui m'a fait découvrir ça. Être un passeur, c'est permettre aux gens de découvrir effectivement leurs capacités, leur potentialité, avoir confiance en eux et puis leur donner de quoi non seulement se nourrir, mais aussi s'auto-nourrir et trouver les chemins pour devenir ce qu'en fait ils sont déjà, mais qu'ils ne le savent pas. Voilà, donc merci Coralie, je pense que vraiment tu es quelqu'un que j'ai eu plaisir à découvrir et à connaître et avec qui j'ai beaucoup aimé travailler et on aura forcément l'occasion à un moment ou à un autre de se recroiser.
Bien
voilà,
sûr.
Merci Coralie, merci Jean-François.
Souviens-toi, était-ce mai, novembre ici ou là, était-ce un lundi? Je ne me souviens que d'un mur immense, mais nous étions ensemble, ensemble, nous l'avons franchi. Souviens-toi, était-ce mai, novembre ici?
Souviens-toi,
là, était-ce un lundi? Je ne me souviens que d'un